morning, I'm Hans-Gorger Ruprecht. This is CKCU Lutheran News. Aujourd'hui, c'est en français. Pour vous faire entendre, Sarah Mostrel, écrivaine française, poète et essayiste de renom international, qui vous présente un aperçu lumineux de la poésie juive ancienne et moderne. Auteur de plusieurs recueils de nouvelles et de poésie, dont le tout dernier s'intitule « Chemin de soi », paru aux éditions Auteurs du Monde en 2014, Sarah Mostrel a reçu cette année la médaille de bronze du rayonnement culturel de l'institution La Renaissance française, culture, solidarité, francophonie, pour l'ensemble de ses activités artistiques et culturelles. Voici donc Sarah Mostrel sur l'origine et l'évolution de la poésie hébraïque et juive. Une conférence qu'elle a donnée récemment à l'hôtel de Caudray-Monceau et à la synagogue Chasseloup-Lauba à Paris. Légèrement édité pour la diffusion sur nos ondes, cet exposé est ici accompagné de l'ancienne mélodie de la synagogue, du compositeur français Charles Valentin Alcan, interprété par Philippe Sarro de la Piano Society Free Classical Recordings.
Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité. Nous allons traiter ce soir de la poésie juive, la poésie donc hébraïque. Nous allons évoquer ses différentes formes un petit peu rapidement. Ensuite, nous allons parler de cette poésie dans la Bible. Et nous arrivons jusqu'à la poésie israélienne d'aujourd'hui, en passant évidemment par les différentes périodes de cette littérature et de la poésie en particulier. La poésie juive reflète d'une part les différents courants hébraïques en fonction de l'histoire et des éléments extérieurs, mais aussi le rapport des hommes à Dieu et à Israël. Dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, on désigne sous le nom de livres poétiques les livres de Job, des psaumes et des proverbes. Quelques-uns y ajoutent l'Ecclésiaste et le Cantique de Salomon. Donc cette poésie hébraïque, à la base, est exclusivement consacrée au service de la religion. Par rapport à la forme de cette poésie, si nous comparons avec les formes que nous connaissons aujourd'hui, il faut signaler que la poésie hébraïque ne possède pas la rime. Donc, elle se distingue de la prose par l'emploi d'un certain nombre de mots et de tournures, mais surtout par le parallélisme des membres. C'est-à-dire que chaque vers se décompose en deux ou plusieurs versets, qu'on appelle des hémistiches, dans lesquels une idée est d'abord énoncée, puis reproduite et développée avec des expressions différentes. Alors on trouve dans quelques psaumes, ainsi que dans les Lamentations de Jérémie, une autre particularité de la poésie hébraïque, l'ordre alphabétique, c'est-à-dire que les lettres par lesquelles commence chaque verset se trouvent rangées suivant l'ordre qu'elles occupent dans l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., jusqu'à Taf. Et quelquefois, chaque verset commence par une nouvelle lettre. On voit ça dans certains psaumes, comme le psaume 23, le psaume 24. Ou bien, elle se trouve en tête de chaque hémistiche. D'autres fois, la lettre initiale commence par un groupe de deux versets. Ou bien le psaume 119, lui qui se divise en 21 strophes, suivant le nombre de lettres de l'alphabet, est composé de 8 versets qui commencent tous par la même lettre. Donc, quand on lit un psaume ou quand on lit une certaine prière, effectivement, de faire attention à la première lettre des versets ou des différentes parties et de constater qu'elles correspondent à l'ordre alphabétique. On a supposé que ce mode d'agencement était destiné à faciliter la mémorisation ou la récitation des psaumes. Mais les poètes de l'époque n'étaient pas dépendants de cette forme et ils l'utilisaient en toute liberté. La poésie est donc intrinsèque au texte biblique, comme on vient de le dire. Elle apparaît sous différentes formes et par rapport au fond, sous la forme de textes de sagesse qui sont exprimés dans des fables, dans des contes, dans des proverbes, dans des textes prophétiques, poétiques ou hagiographiques. Alors les plus anciens psaumes, les psaumes du roi David, ont 3000 ans. On les évalue à 150 et chaque psaume constitue un chant religieux indépendant. Alors le roi David a été un des personnages fabuleux de l'histoire juive, hein. Il est né en 907, avant l'ère commune. Il a régné comme roi d'Israël pendant 40 ans. Il est décédé à l'âge de 70 ans, en 837 avant cette ère. Son inspiration première, son but était d'avoir un rapport avec Dieu. Il a donc écrit ses Tehillim, hein, ce livre de psaumes, qui se compose d'hymnes de louanges à Dieu. Et ce sont donc des cantiques religieux qui exaltent la grandeur, la majesté de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, sa puissance, sa justice. Les psaumes parlent de bienveillance, de providence divine, et sont vraiment une ode à l'Éternel, hein, et à l'immensité de l'univers qu'il a créé. Je vous cite le psaume 49, c'est 21. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 23. Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est ma lumière et mon salut, qui devrais-je craindre? Psaume 27. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où va venir mon aide? Mon aide vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Ou encore le psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, tu les as toutes faites avec sagesse. Le psaume 1. Heureux l'homme qui se détourne du conseil des cruels, mais jour et nuit il cherche l'Éternel. Comme arbre jaillissant près d'une source vive, il donne en son temps chaque fruit. Son feuillage toujours reverdit, tout ce qu'il fait est accompli. Mais les méchants sont paille emportés par le vent qui ne résiste pas au jour du jugement, ni ceux qui font le mal à l'assemblée des justes. Car l'Éternel aime la voie des justes, et ceux qui font le mal tombent dans le néant. Nous arrivons maintenant au roi Salomon. Salomon qui a écrit le Cantique des Cantiques, Shirashirim, le livre de l'Ecclésiaste, Kohelet, et le livre des Proverbes. Alors, le roi Salomon, qui était un roi très sage, a construit le temple de Jérusalem et a régné pendant l'âge d'or d'Israël. Alors, son règne a été très favorable à l'épanouissement de la poésie didactique en Israël. Autant la vie de David avait été semblable à une traversée agitée, celle de Salomon, c'est une promenade très tranquille sur un petit lac paisible. Dès la première situation, on prie, ensuite on contemple, on observe et on devise. Donc, on peut dire que pour David, le psaume, c'était la manière de s'exprimer. Pour Salomon, c'est plutôt le proverbe. Donc, le livre des proverbes, c'est le monument principal de la poésie didactique, hein, contrairement à la poésie lyrique qui était les psaumes. Là, les proverbes sont le fait de la poésie didactique. La poésie lyrique exprime une émotion pour la faire partager, tandis que la didactique veut instruire et rendre sage, hein, la sagesse du roi Salomon. Donc, dans ce livre des proverbes, nous rencontrons des sentences plus ou moins longues sur la vertu, sur le vice, sur le péché. Des règles, des préceptes applicables aux différentes circonstances de la vie humaine, des conseils sur la conduite, sur la manière de vivre. Et le troisième livre donc du roi Salomon, le livre de l'Ecclésiaste, qui sont des réflexions personnelles ou autobiographiques, qui sont exprimées en maximes et en aphorismes, et qui dénonce hein, la futilité, l'inanité de toute action humaine. L'idée, c'est de dénoncer, enfin en tout cas de faire ressortir l'insuffisance des choses terrestres, tout ce qui est richesse, vanité, honneur, science, affection, pour se concentrer sur le véritable bonheur, celui qui est digne de ce nom, donc s'écarter du matériel, hein, si l'on veut, et rechercher le seul bien réel et permanent, la crainte de Dieu et la communion avec Dieu. Le livre donc de l'Ecclésiaste est un livre écrit en prose, sauf quelques passages. Et puis le cantique de cantiques, Shir HaShirim, où là on est dans la contemplation de l'art suprême, le vrai, le pur amour, ce chant de tous les temps, romantique, voire même érotique, de deux amants qui vivent à Jérusalem et qui se manquent. Mais en filigrane, on peut dire que ce texte renferme l'histoire du peuple juif depuis sa sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Et tous ces voyages à travers les exils jusqu'à sa rédemption. On reconnaît que c'est un hymne qui dépeint les relations du peuple juif avec Dieu. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on récite ce cantique à Pessah, à la Pâque juive. Et le célèbre verset « Je suis à mon aimé et mon aimé est à moi » exprime justement ce désir d'union avec le Créateur. Nous passons maintenant au livre de Job, qui est un des livres du Tanakh, qui est un poème didactique écrit en prose, avec une introduction en prose, une introduction historique, la controverse et sa solution en vers, et la troisième partie qui est une conclusion historique en prose. Donc on parle là de la mise à l'épreuve de Job, de la coexistence du mal et de Dieu, hein, qui est une très 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 grande question. Et l'on se demande si l'infortune résulte-t-elle toujours d'une punition divine. Alors maintenant, nous allons faire un grand saut en avant dans le temps. Nous arrivons en 1141 avec Yehuda Halevi, qui est né en 1080, et mort en 1142 d'ailleurs, qui était un grand poète talmudiste, qui a écrit les Sionides. Qui avait fait un voyage en Palestine, s'est arrêté à Damas et qui avait écrit ses poésies qui se rapprochent des psaumes, qui ressemblent aux psaumes. Et dans ces Sionides, Judas Lévi gémit sur les malheurs de son peuple, sur les ruines du sanctuaire national et sur l'asservissement d'Israël. Ô cité du monde, si belle dans les brillants atours du fond d'Occident, j'aspire vers toi de toute mon âme. Que n'ai-je la rapidité de l'aigle pour voler vers toi et mouiller de mes pleurs la poussière sacrée. Ensuite, Abraham ben Meir ibn Ezra, né en 1089, mort en 1167, qui était un rabbin andalou donc du XIIe siècle, né à Tolède ou à Cordoue, en tout cas en Espagne, qui était poète, grammairien, traducteur, exégète, philosophe, mathématicien et astronome, hein, comme beaucoup de personnes à l'époque avaient toutes ces qualités. En tout cas, on avait souvent un pluralisme comme ça de compétences très impressionnant. Donc, Ibn Ezra a écrit un commentaire sur la Pentateuque qui s'appelle Sefer HaYashar. Ensuite, il faut noter Juda al-Arizi, né à Tolède en 1170, mort à Alep en 1225, qui était aussi un poète de langue hébraïque, lui. Né en Espagne, qui a voyagé en Provence, en Égypte, en Terre Sainte, en Mésopotamie, qui était traducteur, qui a proposé une version hébraïque du Guide des égarés de Maïmonide, et qui a adapté les cahiers d'Itiel, qui était un recueil de makama arabe, en hébreu fluide et naturel. Donc dans cette œuvre justement de Makama, de cette adaptation, on peut trouver, donc qui s'appelle Tarmoni, on peut trouver 50 cahiers, dont 49 sont en prose rimée, avec également des poèmes rythmés. Et dans ces cahiers, Judas parle de ses voyages, de sa tire sociale, de ses aventures et également de débats didactiques. Ensuite, encore un grand saut en avant, Israël Najara, 16e siècle, poète de langue hébraïque, né à Damas en 1555, mort à Gaza en 1625, qui est un poète mystique, avec une musique particulièrement riche. Israël Najara a vécu à Tzfat, puis à Gaza, Safed hein, en français. Il est très connu, enfin il a exercé une grande fascination sur les poètes juifs, en particulier en Afrique du Nord. Les thèmes de sa poésie sont essentiellement l'exil et le salut. On les trouve dans le recueil Zmirot Israël, les chants d'Israël, qui est un recueil de poésie chantée extrêmement connu dans les communautés de Rite Sepharad oriental, encore aujourd'hui. Alors la poésie juive, justement, c'est un vecteur de prière, de consolation, de supplication, de révélation, de louange, mais aussi, on va le voir, de sionisme, d'espoir, d'affirmation de l'amour du peuple juif et de la terre d'Israël. Différentes périodes de la littérature hébraïque, on va les passer en revue, il y en a sept. Alors la première période, c'est la période de la Haskala, la période des Lumières, les Lumières juives, 1780-1880. Alors, donc cette période, c'est la continuation de la poésie hébraïque hein, qu'on a vue, et elle a été créée, donc ce mouvement des Lumières a été créé par le philosophe Moïse Mendelssohn, qui était un ami de Kant et de Lessing. Alors Mendelssohn, qui est né en 1729, mort en 1786, a voulu réformer l'éducation juive, en poussant ses co-religionnaires à s'intéresser à toutes les disciplines philosophiques, scientifiques et littéraires. C'est lui qui a créé la première revue littéraire hébraïque qui s'appelle Hameasef, dans laquelle ont écrit Neftali Wiesel et David Franco, qui ont publié les adaptations en hébreu de la Messiade de Klopstock et de la Thalie de Racine. Donc on voit ici une grande ouverture déjà vers l'extérieur, vers la culture environnante. C'est une période d'émancipation des Juifs d'Europe, et c'est une littérature didactique. Le centre de cette littérature se situe en Europe de l'Est. Et de même, ce mouvement des Lumières s'est rapidement étendu vers la Russie, vers l'Europe de l'Est. Le genre dominant de cette période est caractérisé par l'affirmation de l'amour du peuple juif et de la terre d'Israël. C'est aussi l'époque de la première vague d'immigration, Alia, en Israël, et des premières maisons d'édition littéraire. Citons ces grands poètes de cette période, Ernst Imber, qui était originaire de Galicie, qui a écrit la Tikva, l'espoir, qui est devenu l'hymne du sionisme, avant de devenir l'hymne national israélien que nous connaissons. Menachem Mendel Dolitsky, qui est un poète et romancier. Bialik, Chaim Nachman Bialik, bien sûr, extrêmement populaire et connu, 1873, mort en 1934, qui a écrit dans cette période ses premiers poèmes, mais qui va surtout s'épanouir dans la période suivante. Et je dirais aussi Ginsberg, qui était le plus grand théoricien des débuts du sionisme et qui est un des pères de la littérature hébraïque moderne. Alors, les poètes hébreux du XIXe siècle ont été les vrais apôtres du sionisme, car ce sont eux qui ont forgé la conscience nationaliste juive. Par exemple, Ginsberg, avec Achad Ha'am, justement, qui est aussi son nom. Achad Ha'am et d'autres poètes ont publié un manifeste qui ont appelé les juifs à l'autodéfense, justement, suite à tous ces pogroms récurrents. Alors, l'un des thèmes de Chibat Sion, c'est justement parler de ce silence apparent de Dieu, et le poète interpelle Dieu pour savoir pourquoi il n'est pas là quand des pogroms ont lieu et que la situation est difficile. Et la question, c'est jusqu'à quand cette situation va durer, quoi. Donc il cherche à trouver des réponses, soit dans la tradition, soit dans l'affirmation de la compassion de Dieu ou de l'utilité des épreuves. Donc chez les poètes socialisants, la réponse est à rechercher dans l'effort des pionniers. Chez Rabinovitch, par exemple, je cite, c'est de vos propres mains seulement que vous relèverez vos ruines, c'est alors que vous serez sauvés et consolés à Jérusalem. Mais c'est aussi souvent les larmes, hein, qui marquent la sapintie du poète envers son peuple souffrant, un certain sentimentalisme qui donc excelle dans ce genre qu'est la poésie et qui accompagne les poètes comme Chapira, Dieu l'a prédestiné uniquement aux pleurs et aux larmes. Bialik, qui écrit à l'oiseau ou dans aux pensées nocturnes. Et il y a aussi cette poésie qui émane de Palestine et qui chante les pionniers. Donc là, on est dans un thème au contraire de la joie et du chant. Donc joie, force, force au travail aussi. Imber qui chante, mais lorsque j'entendrai le chant de mes frères vigoureux, je dirai voilà la fin des malheurs où les jours de tristesse seront évanouis. Seul le paysan, par son labeur, fera disparaître nos peines. Donc la poésie de Chibat Sion est abordée sous les tons de la confession, de l'approche historique descriptive ou l'approche historiosophique qui insiste sur la mission d'Israël et la définition du peuple. Également une approche réaliste critique qui garde certaines attitudes de la période de la Haskalah d'ailleurs. Alors, on a les socialistes comme Kaminer, comme Gottlober, des jeunes poètes comme Fanne, Dolitsky, Sinzer, Fougue, qui ont en commun des qualités humaines de sensibilité et d'amour du peuple. Et on a aussi donc ce thème de la consolation qui est illustré abondamment par ces trois derniers poètes que je viens de citer, qui s'adressent justement souvent au poète qui doit trouver une ressource pour consoler ce peuple souffrant. Troisième période, la période de la Renaissance, 1900-1920. Donc là, c'est l'épanouissement littéraire du XXe siècle, de l'hébreu et du yiddish. Donc là, on a des thèmes et des genres très, très diversifiés, comme le théâtre, la science, la littérature enfantine. Le centre de cette période est en Europe de l'Est, mais on assiste aussi à une culture hébraïque en terre d'Israël. On verra notamment les poèmes pathétiques inspirés par les pogroms de Chaim Nachman Bialik, qui condamnent la passivité autosuicidaire des Juifs et leur non-résistance à leurs assaillants. On peut citer bien sûr Tchernikovski, qui est un grand poète universaliste et humaniste. Donc Tchernikovski qui se rapprochait de l'éthique grecque fondée sur le culte de la beauté et sur la recherche de cet épanouissement sensuel. Yosef Chaim Brenner, grand romancier et conteur, Berdichevski, grand essayiste, Yitzhak Leib Peretz et Shalom Alechem, qui étaient déjà actifs dans les périodes précédentes et qui écrivent en yiddish. Et nous assistons donc dans beaucoup de cas ici à des poèmes sous forme de monologue où le poète s'adresse à Sion, femme aimée ou mère abandonnée selon le cas. Parfois, on combine consolation et discours du poète au peuple avec un message prophétique ou bien un appel à la vengeance, à la violence ou bien des reproches moralisant sur la désunion du peuple, ou des choses à caractère plus social comme l'oppression des pauvres par les riches, chez Caminer par exemple. Les poètes ici tentent d'expliquer le malheur, d'expliquer ce qui se passe, et donc le formulent dans leur écriture. Quatrième période, 1920-1948, la période des pionniers, les Khaloutsim, période marquée par le passage du centre de la littérature hébraïque en terre d'Israël. Là, nous avons des grands noms comme Lamdan, comme Rachel, comme Shlonsky, comme Alterman, comme Greenberg. Alterman, qui a créé dans un des plus grands quotidiens israéliens d'Avar un éditorial poétique, qui paraît tous les vendredis et qui traite des problèmes de tous les jours. Très populaire en Israël, ce journal. Cinquième période, 1948-1970, la période dite de génération de l'État ou écrivain du Palmach. Là, on parle de thèmes israéliens comme, hélas, la guerre, mais aussi l'immigration, l'alia, le kibbutz. Hein, le kibbutz est en pleine expansion à cette période, la société en général. Et puis arrivent des thèmes personnels comme l'amour, la douleur, et bien sûr l'expérience de la Shoah, que beaucoup vont commenter. Sixième période, le nouveau courant, de 1670 à 1990. Donc là, on a un retour du moi et des thèmes refoulés. On est dans des recherches de style et d'esthétisme. C'est l'émergence du roman expérimental, du théâtre expérimental, mais c'est aussi la renaissance de la poésie. Une poésie plus universaliste, plus existentialiste. On ne peut pas ne pas citer Yehuda Amichai, 1924, mort en 2000. Et Nathan Zach, en 1930. Et donc là, c'est l'individualisme qui parle. Donc il y a des poètes, pas seulement hébreux, mais aussi arabes et druzes, qui parlent de leurs caractéristiques identitaires. On a des poètes de la diaspora qui ont émigré vers Sion et qui ont continué à s'exprimer dans les langues de l'exil. Comme par exemple les poètes yiddish ou d'expression française Milbauer et Claude Vigée, qui font partie donc de ce nouveau courant. Et enfin la septième période, la littérature minimaliste, une génération d'auteurs contemporains qui est née juste avant ou après la guerre des six jours, qui ont marqué donc cette littérature. Et là on est dans un langage complètement différent, avec un champ de vision qui est limité aux faits banals plutôt. Et on pourrait citer en poésie Agi Michol, Israël Pinkas, Israël Eliraz, Roni Somek, Stefan Zweig, Daniel Mesguich, Emmanuel Moses, etc. Je vous remercie.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire.